Et on vous l'a dit, en Essonne, deux adolescents de 14 ans ont été poignardés mortellement en deux jours lors du rixe entre bandes rivales. L'occasion d'en parler ce matin avec François Durovray, qui est président du conseil départemental de l'Essonne. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci d'être avec nous après ces 24 heures assez terribles qui ont endeuillé votre département. Qu'est-ce que vous savez de plus ce matin d'ailleurs sur l'origine de ces deux bagarres mortelles entre bandes d'adolescents ?
Ces deux drames se sont déroulés dans deux villes très tranquilles du département de l'Essonne. Il y a une enquête qui est en cours, évidemment, il est trop tôt pour en déterminer les causes. On sait que ce sont des bandes rivales qui se sont donné rendez-vous et qui, malheureusement, utilisent aujourd'hui des armes pour se parler. Et c'est ça la difficulté. Encore une fois, ce qui s'est passé en Essonne pourrait se passer n'importe où ailleurs en France.
Oui, c'est vrai. Mais cela dit, le préfet a quand même évoqué hier une montée progressive de ces guerres de bandes dans votre département. Pourquoi, selon vous ?
Tout simplement parce qu'il n'y a pas dans mon département de réponse par l'ensemble des services de l'État à ce qui se passe. Vous savez que je suis élu d'un département qui connaît une forte croissance démographique et malheureusement, il n'y a pas le nombre d'enseignants, de policiers, de gendarmes, mais aussi de personnel de justice. Et lorsque un jeune commet une faute, que cette faute est repérée, qu'il y a des enquêtes qui sont réalisées par les services de police, il n'y a malheureusement pas de sanctions judiciaires derrière, non pas parce que les juges seraient laxistes, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Et ce qui pourrait être sanctionné dans un autre département ne l'est pas chez moi. Et donc, des jeunes qui n'ont pas de limites continuent à commettre des actes de plus en plus graves jusqu'au drame que nous avons rencontré, que nous avons connu hier.
Oui, c'est une question notamment de moyens dans les quartiers, puis dans le département, dans le vôtre, mais comme dans beaucoup d'autres. Sauf que c'est vrai, vous l'avez dit, il y a une explosion démographique. Et là, pour l'instant, vous avez une première réponse avec des renforts envoyés en urgence de police, hein, c'est ça ?
Oui, qui une réponse évidemment nécessaire compte tenu de la situation, mais qui n'est pas suffisante. J'ai l'occasion d'interpeller le Premier ministre très régulièrement et j'ai encore échangé avec lui récemment pour demander un plan pour l'Essonne avec, comme je l'indiquais tout à l'heure, des enseignants, des policiers, des personnels de justice, pour qu'ils puissent avoir des réponses. Les habitants chez moi ne sont pas évidemment plus violents qu'ailleurs. C'est simplement qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de sanctions. Or, dans notre pays, dans n'importe quelle société, il y a besoin d'avoir un cadre. Et c'est ce cadre qui permet de fixer les limites. Les élus aussi sont responsables. Pour ma part, à l'échelle du département, nous avons déployé de la vidéoprotection dans l'ensemble des collèges du département. J'ai recruté 135 éducateurs de rue qui permettent de repérer les jeunes qui risquent de basculer et qu'on les prenne en charge. Parce qu'évidemment, ces jeunes, il faut leur donner un avenir. Et on a la capacité dans le département de l'Essonne, qui est un très beau département, d'offrir de très beaux avenirs à nos jeunes. On a la chance d'avoir le plateau de Saclay, on a la chance d'avoir un cadre de vie assez exceptionnel à côté de Paris. Oui. Et ça fait mal au cœur, vraiment, de voir que quelques jeunes, malheureusement, gâchent leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de limite.
Est-ce qu'il faut des brigades un peu spéciales ? C'est la question qu'on pose, nous, sur les réseaux sociaux ce matin. Des brigades spéciales, par exemple, pour encadrer et surveiller un petit peu ces jeunes adolescents. Ça passe évidemment sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux.
Alors, je ne sais pas si ce sont des brigades ou...
Oui, on les appelle brigades spéciales pour trouver un...
Ce qui compte, à mon sens, c'est qu'il n'y ait pas d'espace de non-droit. J'ai l'occasion avec le préfet ou avec d'autres autorités, le ministre Darmanin, je vais en parler encore hier, l'Essonne est malheureusement connue parfois pour certains de ses quartiers à Grigny ou autres qui font la une de l'actualité. Mais je dis régulièrement, il y a 12-15 quartiers de la même nature qui peuvent très bien basculer dans des phénomènes de violence si on lâche prise. Et ce qu'il faut, c'est que les services de l'État, et encore une fois de l'éducation nationale, de la police et de la justice, soient chez eux partout. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit en Essonne comme partout ailleurs sur le territoire.
Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un manque de responsabilité de certains parents ?
De responsabilité ou d'émission. Je suis un département qui accueille, vous savez, à la fois des habitants de Paris, de la proche couronne, qui n'ont plus les moyens de se loger et qui viennent s'installer en Essonne, qui n'ont pas de racines dans notre département. On accueille aussi des populations étrangères qui sont confrontées à des problèmes d'identité. Et il faut trouver le creuset commun. La difficulté aujourd'hui, c'est que la nation, la France ne fait pas toujours vibrer, rêver, et la langue commune, j'allais dire, c'est celle du quartier. Oui. Or, c'est pas au travers d'un quartier qu'on se construit, c'est par l'altérité, c'est en allant rencontrer les autres qu'on peut se construire, et ça, c'est très important de pouvoir le faire. Les élus locaux y prennent leur part, et je peux vous assurer qu'on consacre des moyens considérables pour permettre à ces jeunes de construire leur avenir, et l'écrasante majorité y parvient, mais il faut que faire un effort supplémentaire pour que tout le monde y arrive et que nous n'ayons pas les phénomènes que nous avons connus malheureusement ces derniers jours.
Oui. Merci beaucoup François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et ce matin, à 23 ans, un Gersois a demandé de se présenter, a décidé de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Il est avec nous ce matin, Anthony Tarieux, bonjour. Donc vous êtes candidat à la collecte des parrainages pour les présidentielles.
Oui, bonjour, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Bon, alors, qu'est-ce qui vous a décidé, vous a poussé, vous, étudiant à Pau, originaire de l'île Noé dans le Gers, à vous présenter à la présidentielle? Alors évidemment, il y a plein d'étapes, avant cela.
On est au début.
Oui.
C'est ça, exactement. Écoutez, je me suis toujours intéressé à la politique, de près ou de loin. Je ne me reconnaissais pas dans les idées des partis politiques actuels et j'avais besoin d'agir pour les Français, et c'est ce qui m'a poussé à créer mon parti politique, la France de demain.
Oui, vous êtes ni droite ni gauche, Anthony Tarieux.
C'est-à-dire que pour moi, gauche et droite peuvent se rassembler sous le bon sens. Voilà, n'a pas de couleur, n'a pas de bord. Ouais. Alors, évidemment, d'autres vont penser, oui, alors la sécurité, ça va être à droite, des actions sociales, ça va être à gauche. Mais pour moi, tout ça, ça peut se rassembler.
Ouais.
Et il ne faut pas diviser, encore une fois, les Français, je pense qu'ils se divisent naturellement aujourd'hui avec la politique menée. Et on devrait enfin réunifier cette France.
Bon, dites donc, Anthony, vous faites du en même temps, là, de l'Emmanuel Macron, hein?
Emmanuel Macron, ça y est. Non, je suis moi-même. Je compte rester moi-même.
Oui. Bon. Alors, vous allez vous mettre en quête de parrainage, là. Est-ce que vous avez, vous pensez que vous pourrez aller au bout, ou alors, c'est sûr. Une expérience que vous voulez lancer.
C'est à la fois un défi, évidemment, mais c'est un défi que je compte relever avec brio, parce que lorsqu'on se présente, on veut évidemment arriver aux 500 signatures. J'ai le maire de ma commune qui fut le premier informé, le premier soutien, et évidemment d'autres s'en suivront. Je vais rencontrer aussi quelques sénateurs très prochainement. Donc ça se met en place, voilà. Et le chemin, évidemment, est encore long. On est à un an de la présidentielle, même un peu plus.
Oui.
Donc je suis confiant.
Qu'est-ce qui vous motive dans la politique? Et puis s'il y a deux, trois mesures essentielles sur lesquelles vous voulez appuyer dans les semaines qui viennent, là, en déployant votre candidature?
Écoutez, on parle beaucoup de sécurité aujourd'hui, mais il faut aussi parler d'éducation. Je suis toujours aux études et je vois aussi que je suis sorti de primaire, collège, lycée. Je vois que les fondamentaux ne sont pas acquis pour la plupart, c'est-à-dire savoir bien lire, écrire et parler sans avoir la moindre lacune au sortir du primaire, par exemple. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est quelque chose pour moi qui est très important. C'est le socle de la République, l'éducation. Et le sens civique aussi. On a vu que les gens, aujourd'hui, même les jeunes dans les banlieues, les petites communes aujourd'hui, comme en Essonne, n'ont plus, je pense, ces repères-là de la République.
Quelles études suivez-vous, alors, justement, Anthony, en parallèle, puisque vous les avez évoquées là à l'instant?
Oui, je suis des études de langues étrangères appliquées donc à l'université de Pau, comme vous l'avez dit.
Oui.
Donc anglais, espagnol, russe. C'est très enrichissant. J'ai eu l'occasion aussi de faire un séjour Erasmus en Espagne. Bon, le confinement a fait que ce n'était pas dans les meilleures conditions, mais c'est très enrichissant.
Ouais. Voilà. Oui, le confinement et puis la crise du Covid rend la vie extrêmement difficile pour les étudiants. Oui. Est-ce que l'un des objectifs à travers votre candidature, Anthony, à 23 ans, c'est d'essayer de donner un peu des perspectives à tout le monde pour se dire que ce que l'on vit est difficile, mais il faut penser à demain?
Évidemment. Oui, je pense qu'il faut penser à demain, car les étudiants d'aujourd'hui sont tous les travailleurs de demain, qu'ils soient aussi bien employeurs qu'employés, parce que beaucoup aussi aimeraient fonder leur entreprise. Malheureusement, ils ne voient plus de perspective devant eux. Déjà, il y a quelque chose qui m'étonne vraiment. Par exemple, moi, je paye un loyer tous les mois à Pau et je suis à 100 km de Pau. Et je me dis, et pourquoi on ne ferait pas, alors on enlèverait au moins les charges que l'on paye dans le loyer. Par exemple, je suis au CROUS. Je paye la moitié de mon loyer pendant les charges. Enlevons au moins ça, par exemple, parce qu'on perd nos jobs. Donc, les jobs étudiants disparaissent et on continue de payer la même chose. Pour moi, c'est pas normal.
Bon, Anthony, est-ce que vous avez un modèle en politique?
Non, pas forcément.
Il y a un personnage, une personnalité, un homme, une femme qui vous a inspiré quand même, ou pas?
Honnêtement, non. Je ne vous mens pas, je n'ai pas vraiment de modèle. Le seul modèle, moi, c'est, je vous le dis encore une fois, c'est le bon sens, c'est le fait de suivre un peu aussi ce que disent les Français. Je suis toujours l'actualité et j'essaie de répondre au mieux dans mes idées.
Bon, merci. Bah, écoutez,
Bonne
bonne
chance.
route, Anthony Tarrieu.
Merci
Donc,
beaucoup.
Ce 23 ans.
Serait le plus jeune
Voilà.
président
Oui,
de France.
oui, absolument. 23 ans.
Exactement, voilà.
On suivra votre quête de parrainage, en tout
Oui.
cas, pour l'élection
Merci.
présidentielle de 2022. Et merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et dans quelques instants, on va revenir sur le débat sur les menus sans viande à Lyon, par exemple. Hein. Que dit-il de nous, pardon, excusez-moi. On en parlera avec Alexis Poulain dans quelques instants dans l'édito politique. En attendant, bon réveil, 7h22, c'est le Grand Matin Sud Radio. À tout de suite.